Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être du lundi au vendredi, en direct bien sûr de 15h à 16h comme tous les jours. Il est à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au programme aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à l'obésité, mais surtout à l'obésité comme on en parle peu, du point de vue de la recherche notamment et des thérapeutiques prometteuses pour demain. Nous vous expliquerons comment, notamment quelles sont les causes désormais clairement identifiées. Vous verrez que la malbouffe est certes pour quelque chose, mais on sait aujourd'hui que la génétique et même notre microbiote jouent également un rôle. Pour nous éclairer sur ce sujet, l'obésité, nous recevrons donc en studio le professeur Karine Clément. Elle est professeure en nutrition et directrice d'une unité INSERM Sorbonne Université à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous nous intéresserons à la dyslexie, ou plutôt à une solution innovante pour améliorer le quotidien des enfants touchés avec des lunettes intelligentes qui facilitent la lecture. Pour en parler, nous aurons en ligne Michael Kodoshian, qui dirige la start-up Abeille, à l'origine de la conception de ces lunettes. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de l'humour qui peut perturber parfois, c'est étonnant, la vie de couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Maëlle. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors j'aurais une petite question à vous poser. Je viens d'avoir un deuxième enfant il y a 2 mois, mais mon aîné de 5 ans, il est horriblement jaloux. Ça commence à être très compliqué à gérer pour moi, c'est un enfer. Il me fait caprice sur caprice, il fait pipi au lit la nuit et il lui a même déjà jeté des jouets à la figure du bébé. Alors j'aurais une petite question, c'est auriez-vous des conseils à me donner pour apaiser la situation familiale? Merci à vous et belle émission.
Merci Maëlle. Alors j'aurais bien posé la question au docteur Jimmy Mohamed qui s'y connaît dans les grandes fratries. Hein, vous direz quoi, ça passe hein, Jimmy,
mais, tout passe.
Mais on a quand même préféré poser la question à une spécialiste. On a fait appel à la psychothérapeute Isabelle Filioza. On l'écoute.
Quand on a 5 ans et qu'on était tout seul avec papa-maman et tout d'un coup il y a un intrus qui arrive et qui draine l'attention principalement de maman, de la figure d'attachement, ça peut être extrêmement difficile. Un enfant, à ce moment-là, a besoin encore plus de ressentir l'affection, l'amour de son parent. Et parfois, nous demandons à un enfant de 5 ans, je m'occupe pas de toi, je m'occupe du bébé pour l'instant, pour toi, ce sera tout à l'heure. Et quand on fait ça, eh bien, l'enfant se sent rejeté. Donc, plutôt que de faire ça, on va regarder l'enfant et mesurer qu'il va avoir un besoin, il va exprimer un besoin envers sa maman, presque à chaque fois que maman est avec le bébé. Et donc, je prends le bébé, tout de suite, je me tourne vers le grand enfant de 5 ans et je lui fais un sourire ou un bisou ou un clin d'œil. Je lui donne un petit signal qu'il existe pour moi, qu'il est important pour moi et que je l'aime.
Voilà, c'était les bons conseils d'Isabelle Filioza au micro de Benjamin Lévesque. Jimmy, on va prendre une deuxième question, comme tous les jours, hein, pour vous, celle-ci. C'est celle que nous a envoyée Nathalie. Écoutez bien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Je suis vaccinée contre le Covid. J'ai eu mes 2 injections, mais je me demandais si on savait si le vaccin protégeait bien contre le variant anglais, qui est de plus en plus présent dans ma région en Île-de-France. Voilà. Merci pour votre réponse.
Jimmy, alors on a beaucoup de questions en ce moment autour de la vaccination. On peut évidemment le comprendre. Est-ce que les vaccins actuels, on dit les vaccins au sens large, protègent contre cette souche donc du variant anglais?
C'est une chance qu'on peut avoir dans notre malheur en ce moment, c'est que le variant anglais est majoritaire et que les vaccins que nous avons, les 3, le vaccin Pfizer, le Moderna ou AstraZeneca suspendu mais qui va être mis en place dans peu de temps, eh bien sont efficaces sur ce variant anglais. Et donc, on va peut-être espérer un peu de répit quand on sera vaccinés tous correctement.
Alors, et les vaccins actuels, leur efficacité contre les autres variants, pour le coup, parce que donc là, on a cité l'anglais qui effectivement prend de plus en plus de place, mais on sait, il y a le brésilien, l'africain, même le breton, peut-être. Est-ce que bah, là, les vaccins, quid?
Alors là, on a un peu de moins bonnes nouvelles. En revanche, sur les vaccins à type ARN, le variant brésilien serait 7 fois plus résistant à la neutralisation des anticorps. Ah oui. Et le variant sud-africain, 30 à 40 fois plus résistant. Ça veut dire que ces vaccins sont un peu moins efficaces, mais peut-être qu'ils vont protéger pour les vaccins ARN de forme grave, puisqu'il y a ça aussi comme enjeu, ne pas transmettre le virus et de ne pas en mourir. En revanche, pour le vaccin AstraZeneca, il semblerait que sur le variant brésilien et sud-africain, l'efficacité soit plutôt mauvaise, raison pour laquelle il ne faut pas laisser circuler le virus, car petit à petit, bien, d'autres variants prendront la place du variant anglais une fois qu'on sera débarrassé de celui-là.
Je reviens sur le variant anglais, Jimmy, qui est celui, donc notamment en Île-de-France, hein, qui est en train de prendre de plus en plus de place. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui d'ailleurs ? Plus contagieux, ça on l'a compris. Plus dangereux ou pas ?
Alors, plus contagieux, oui. Raison pour laquelle, lorsque vous êtes malade, on vous isole pendant 10 jours à la place d'une semaine. Et finalement, il est encore plus mortel, 1,3, 4 ou 5 fois plus mortel. Et puis, rappelez-vous, on avait dit qu'un virus qui serait plus contagieux sur le long terme serait responsable d'une saturation des réanimations. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Souvenez-vous, en janvier, nous avions 2 mois d'avance sur les Anglais avec le variant anglais. On n'a pas fait grand-chose pendant 2 mois. Eh bien, les réanimations sont saturées et désormais, 100% des places de lits de réanimation sont occupées par du Covid en France. Donc, on peut être fier de nous.
Bon, Jimmy, le variant anglais, pour le coup, quand on est infecté, vous disiez on est contagieux sûrement plus longtemps, 10 jours d'isolement. Mais est-ce que l'aggravation aussi, on sait qu'avec le premier variant du Covid, c'était au 8e jour souvent. Là, il est un peu plus tardif parfois. Hein.
Ça peut être plus tardif, c'est le plus précoce, ça dépend du terrain. Mais quoi qu'il en soit, c'est un virus qui tue. Il faut quand même qu'on se le mette dans la tête.
Quel que soit le variant, gardez ça bien en tête.
Exactement. S'il faut être confiné, malheureusement, on sera obligé d'accepter la règle. Et en revanche, la seule façon de s'en sortir, eh bien, ce sera la vaccination. Le confinement n'est pas un traitement, c'est un moyen de sauvetage. Donc, il faudra se vacciner et regagner la confiance des Français, qui a été écorché, je peux le comprendre. Soyons patients et bon courage à tous surtout.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, nous passons à notre grand dossier du jour avec le professeur en nutrition Karine Clément. On va vous expliquer notamment ce que l'on sait à l'heure actuelle des causes de cette maladie, l'obésité. On fera également le point sur l'avenir, sur les pistes de recherche les plus prometteuses pour améliorer encore la prise en charge demain des personnes souffrant d'obésité. Tout ça, c'est dans quelques toutes petites minutes, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite dans ce studio notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Karine Clément. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de nutrition, directrice d'une unité INSERM Sorbonne Université à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc avec vous, on va parler d'une pathologie dont le développement est assez inquiétant, l'obésité. D'ailleurs, je parle de développement, mais est-ce qu'on peut parler justement de ce constat ? Est-ce qu'en France, comme on l'entend parfois aux États-Unis, on fait face finalement à vraiment une épidémie d'obésité? Déjà, parlons des adultes, on en est où des chiffres?
Alors, effectivement, on a parlé beaucoup de la progression de l'obésité ces 20 dernières années. Là, on est à peu près à 17% de la population française qui souffre d'obésité.
Mais c'est stable.
C'est stable, oui et non. C'est-à-dire qu'on est un tout petit peu en dessous des chiffres des autres pays européens. Mais en fait, quand on regarde des cohortes qui sont suivies, il y a une cohorte très célèbre qui s'appelle Constance. Et en fait, on s'aperçoit que pour des personnes qui ont une obésité surpoids et une obésité modérée, ça continue encore de progresser.
Et puis 17%, on ne va pas se satisfaire de ça. Hein.
Et quelle est l'évolution chez les enfants? Est-ce qu'on constate la même chose?
Alors, chez les enfants, c'est l'autre préoccupation. Et cette préoccupation, elle est mondiale. Hein. Ce n'est pas que la France, y compris dans des pays qu'on appelait autrefois en voie de développement. Il y a vraiment une progression très très importante de l'obésité et ça continue à progresser. Dans les pays du Sud, si vous prenez, y compris les pays africains d'ailleurs, hein, plus de 24% d'obésité chez l'enfant de moins de 5 ans.
Ouais.
Donc c'est 10 dernières années à peu près. Donc, c'est une préoccupation dans tous les pays du monde maintenant.
Est-ce qu'il y a une différence entre les sexes, femmes, hommes, je ne sais pas, en France en tout cas?
Ça a été regardé au travers de différentes études épidémiologiques. En fait, ça dépend des tranches d'âge. Donc, il y a pour certaines tranches d'âge, effectivement, une augmentation de la fréquence chez les femmes. Puis après, pour d'autres tranches d'âge, c'est à peu près équilibré. Donc, il faut aller vraiment dans le détail des études épidémiologiques.
Est-ce qu'il y a une disparité régionale avec les personnes qui sont en surpoids ou obèses? Ou est-ce que finalement, on est touché un peu de la même façon en France?
Absolument, il y a une disparité régionale, y compris en France, avec un petit gradient dans le nord-sud, c'est-à-dire plus de personnes en situation d'obésité dans le nord par rapport au sud.
Oui.
Et pourquoi? Enfin, on a une explication.
Il y a un enjeu qui est aussi lié aux situations économiques des personnes. Et on voit bien une relation qui est nette et à chaque fois qu'il y a des études épidémiologiques, on la retrouve entre la situation sociale et l'obésité.
Alors on va parler des causes de l'obésité à présent. Le « vous êtes gros parce que vous mangez trop », donc en gros cibler la mauvaise bouffe, etc. Ça ne suffit pas aujourd'hui à expliquer l'obésité, ça on en est sûr, hein, mais ça pèse quand même un peu.
ça pèse. On a changé, enfin on le voit bien, on a changé notre mode de vie, on mange différemment, on bouge différemment, d'autant plus dans cette période actuelle. Mais on sait aussi qu'on est totalement inégaux devant la prise de poids. Donc vous allez être soumis à une pression, vous allez, pour manger plus ou bouger moins, ben, y a des personnes qui vont prendre pas mal de poids et puis d'autres moins. Et ça c'est connu en fait depuis plus de 30 ans en réalité. Oui. Il y a eu des études de suralimentation chez des jumeaux, donc même patrimoine génétique. Vous donnez une suralimentation à des jumeaux, ben en fait, on va avoir une différence dans la prise de poids entre les paires de jumeaux, mais au sein d'une même paire de jumeaux, même patrimoine génétique, une prise de poids très similaire. Donc ça montre bien aussi l'influence de facteurs biologiques, dont génétiques. Mmh.
Une rapide mise au point, quand on parle de personnes en surpoids ou d'obésité, c'est pas une qualité ou un défaut, c'est une maladie. Et donc on n'est pas là pour dire aux gens c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas un art de vivre. C'est que derrière il y a des conséquences. Et quand on parle des personnes obèses, c'est pas pour les pointer du doigt, c'est pour leur dire au contraire attention, il y a un enjeu pour votre santé.
Alors là aussi, il n'y a pas de doute, l'obésité est une maladie. L'Organisation mondiale de la santé l'a dit déjà en 1997. Et on a bien du mal à faire passer ce message. Et donc, comme vous le dites, hein, y a une stigmatisation des personnes en situation d'obésité qui est extrêmement problématique. C'est une maladie dont on commence à comprendre les causes et qui a des conséquences multiples.
Dans les causes, justement, donc on a parlé évidemment de la malbouffe, de notre mode de vie, peut-être d'un facteur génétique. Est-ce que l'environnement en lui-même, est-ce qu'il y a des polluants peut-être, qui sont peut-être plus nombreux aujourd'hui, qui pourraient augmenter le risque d'obésité ?
Alors effectivement, on s'aperçoit qu'il y a différents facteurs qui peuvent intervenir. Par exemple, alors on peut en citer cet exemple des polluants, ce qu'on appelle les polluants organopersistants, ils adorent se stocker dans la graisse.
Ah oui.
Et donc, il a été montré des effets de ces polluants sur la capacité des cellules graisseuses à devenir des cellules de stockage, ah oui. C'est-à-dire des adipocytes, des cellules spécialisées dans le stockage de graisse.
Il y a aussi le microbiote, la flore intestinale. Il y aurait aussi un lien justement entre obésité et mauvaise flore intestinale.
Alors, c'est un des progrès des 15 dernières années, hein, de voir que notre microbiote a un effet effectivement important sur notre corpulence. Ça a démarré par des études chez les souris. Vous transférez le microbiote d'une souris obèse à une autre souris qui n'a pas d'obésité. Ben, la souris qui n'a pas d'obésité, qui a reçu ce microbiote, va développer une obésité. Donc ça, c'était quand même une petite émotion chez des gens dans le domaine. Et effectivement, on s'aperçoit que ce microbiote est perturbé chez des personnes en situation d'obésité.
Et pour terminer sur les causes, est-ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas tout encore sur l'obésité, sur les mécanismes de l'obésité ?
Bah, les causes sont multiples et surtout en fait différentes d'une personne à l'autre. C'est toute la difficulté, c'est que le problème de poids d'une personne n'est pas celui d'une autre. Et donc l'histoire pondérale des personnes est aussi très différente. Et il faut aller dans de la précision, en fait, dans ce contexte.
Professeur Clément, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, on va tenter à présent de comprendre ce qui se passe très concrètement dans l'organisme des patients atteints d'obésité. Désormais, les chercheurs, les médecins comprennent de mieux en mieux ces mécanismes qui empêchent les patients de perdre du poids et même ce qu'est précisément finalement la graisse, le tissu adipeux. C'est en fait un organe à part entière. On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Karine Clément. Vous êtes professeur de nutrition, vous êtes également directrice d'une unité INSERM, Sorbonne Université à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc avec vous, on fait le point aujourd'hui sur l'obésité, une émission en collaboration avec la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale. À présent, professeur Clément, on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'organisme des patients qui souffrent d'obésité, parce que mieux comprendre ça, eh bien, ça permet de peut-être un jour mieux les soigner. Déjà, on sait maintenant que le tissu adipeux, donc la graisse, hein, c'est un vrai organe. Expliquez-nous.
Alors, c'était un bouleversement, hein, encore une fois, des 25 dernières années. Le tissu adipeux, ce n'est pas qu'un sac qui se remplit de gras. C'est un vrai organe qu'on trouve à différents endroits dans le corps, hein, sous la peau, autour des viscères. On a même un peu de graisse derrière les genoux. Hein.
Ah bon ?
Ouais, ouais. Et donc derrière l'œil, par exemple. Et donc, c'est un organe qui dialogue avec les autres organes. Donc, il va parler avec le
c'est
cerveau.
C'est pas de la graisse inerte qui c'est fait rien,
absolument.
Qui sert à rien, à
donc,
part nous embêter.
Oui,
quoi,
oui. Alors, ce qu'on appelle dans notre jargon un organe endocrine, parce que ça fabrique des hormones.
Ah oui.
Et donc, le tissu graisseux parle avec le cerveau, parle avec le muscle, parle avec le foie et même l'intestin. Et puis ça discute. Et donc, on s'est aperçu que ce tissu devenait malade en réalité au cours du développement de l'obésité. Et donc, il perd sa capacité primaire qui est de stocker quand on a besoin et puis libérer des graisses quand on a aussi besoin.
Par exemple, c'est utile la graisse.
Bien sûr, quand vous êtes à jeun, vous allez produire, on va utiliser le tissu de stockage pour donner de l'énergie. Quand vous allez faire effectivement une activité physique intense, longtemps, etc., le tissu adipeux joue un rôle.
Et justement, vous dites que ce tissu adipeux, cette graisse, peut devenir malade et qu'il va même s'y former de la fibrose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, absolument. En fait, quand vous prenez du poids, la taille de vos cellules graisseuses va augmenter. Et en fait, elle va attirer des cellules de l'inflammation qui vont vraiment infiltrer en fait, le tissu adipeux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Dans un organe, quand il y a de l'inflammation dite de bas grade, c'est-à-dire pas beaucoup d'inflammation, ça n'a rien à voir avec une infection, mais pendant longtemps, eh bien ça fait le lit de ce qu'on appelle la fibrose. Alors on peut prendre l'image du foie. Vous êtes à Noël, vous allez consommer des produits
du gras,
très
du
agréables.
Sucre,
voilà, donc vous allez faire le foie gras. Bon, le foie gras une fois, c'est pas très grave, mais en fait, si ça continue, il va y avoir de l'inflammation. Et puis l'installation d'une fibrose. Et on s'est aperçu qu'en fait, dans le tissu graisseux, il y avait également des dépôts de fibrose.
Alors je signale que ces travaux là, donc autour de la fibrose, de l'obésité, vous les avez menés grâce au soutien de la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale. Et donc, cette fibrose qui s'installe quand on est atteint d'obésité, est-ce que plus l'obésité dure dans le temps, plus elle est importante et qu'est-ce que ça implique ?
Alors effectivement, vous allez avoir... Donc cette fibrose, c'est ce que c'est ? C'est des sortes de fibres. Vous voyez, on parle du collagène. Vous imaginez cette cellule toute ronde qui est l'adipocyte, elle va avoir des fibres autour d'elle et
ça devient dur.
Ça devient rigide.
Rigide.
Parce que c'est vrai que le concept de gras dur, c'est un peu difficile
mais
à admettre.
Mais le gras, c'est mou, hein, on a l'impression.
Voilà.
Bien
mais
sûr.
En fait, quand on regarde les caractéristiques des patients, effectivement, il y a des personnes qui ont une graisse dite plus rigide et d'autres plus molle. Et ça a des conséquences en fait différentes sur probablement les capacités de stockage de la graisse, mais aussi la réponse à la perte de poids.
Et ça veut aussi dire qu'on n'est pas tous égaux face à la fibrose, on ne va pas tous la faire ou l'exprimer de la même manière.
Absolument.
Pas parce qu'on est plus obèse ou moins obèse.
Non,
enfin, c'est ça.
Absolument. Ouais. Et ça dépend aussi du lieu de l'installation de cette fibrose, sous la peau ou bien autour des viscères. Ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est différent d'une personne à l'autre.
Mais si on faisait une grosse liposuction, qu'on enlève toute cette graisse qui est atteinte de fibrose, est-ce qu'on n'enlèverait pas définitivement le problème ?
Alors,
c'est peut-être un peu simpliste, mais
oui,
bon.
Oui, c'est simpliste parce que, en fait, la liposuction, elle est réservée pour des dépôts de tissu adipeux à certains endroits qui sont
plutôt
gênants.
Sous la peau, du coup.
Voilà, sous la peau, qui sont invalidants pour certaines patients. Je dis patientes parce que c'est vrai qu'on voit plus de femmes, mais patients en général. Et donc, c'est pas recommandé, en fait, de faire ce que vous appelez des grosses liposuctions parce qu'il y a des volumes également de sang qui peuvent être retirés. Donc ça, il faut faire très attention.
Et une fois qu'elle est installée, la fibrose, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle soit réversible ou c'est comme la cirrhose d'une fois ? Une fois qu'elle est installée, bon, on peut la ralentir, mais on ne peut jamais vraiment en guérir.
Alors ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et dans laquelle, d'ailleurs, on met des animaux au régime et puis on les fait regrossir. On fait ce qu'on appelle un yo-yo. Hein,
comme nous, on a tendance à le faire.
Ben, on expérimente ça tout le temps, bien sûr. Donc, perte de poids, reprise. Et en fait, on s'aperçoit que ces dépôts de collagène, ils ne partent pas forcément. Et donc, on essaie de comprendre pourquoi. Et donc, l'idée, justement, c'est d'essayer d'agir, en fait, dessus pour... Parce que l'idéal, ce serait de maintenir un tissu graisseux très plastique. C'est-à-dire, finalement, vous maigrissez, il est en lien, il diminue en taille et donc en lien avec la perte de poids. Vous reprenez, on restocke. Mais il faut garder cette plasticité. Quand on perd cette plasticité, c'est un problème.
Et professeur Clément, donc comprendre mieux comment s'installe cette fibrose, c'est peut-être parvenir à l'éviter un jour, à la prévenir grâce à des médicaments. C'est ça que vous cherchez, que vous testez actuellement sur des animaux, je crois, pour l'instant.
Oui, en fait, on a trouvé des cellules dans le tissu graisseux qui sont spécialisées dans la fabrication de cette fibrose. Et donc, on essaie d'agir sur ces cellules.
Avec des médicaments. Hein,
voilà, avec des médicaments qui agissent sur la fibrose et aussi sur l'inflammation. Et on est pour l'instant au stade chez l'animal.
Chez l'homme, d'ici combien de temps ?
Alors bon, chez l'homme, chaque fois qu'on me pose la question, je dis dans 5 à 10 ans.
Mais tous les ans, vous dites dans 5 à 10 ans. Bon,
mais globalement, oui, on progresse quand même assez vite. Déjà, on a identifié ces cellules il y a 3-4 ans. Et donc, on sait qu'on peut agir sur ces cellules au niveau de l'inflammation et de la fibrose.
Très bien. Professeur Clément, on va continuer cet échange dans quelques minutes. Europe 1. On revient très vite dans cette émission consacrée à l'obésité, maladie, vous l'avez compris, qu'on appréhende de mieux en mieux et cela ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques. On y vient justement à la prise en charge, aux solutions qui permettront peut-être dans pas si longtemps que ça de mieux soigner ses patients. Ne bougez pas, nous sommes de retour très vite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, professeur Karine Clément. Je rappelle que vous êtes professeur de nutrition. Vous êtes directrice d'une unité INSERM Sorbonne Université à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc, on parle d'obésité aujourd'hui avec vous. On va parler à présent de la prise en charge actuelle. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui finalement dans cette pathologie? Alors, on peut guérir l'obésité. On a vu des résultats spectaculaires dans la grâce à la chirurgie bariatrique. Mais le problème en France, c'est qu'on est les champions du monde, je crois, dans cette intervention. Ça a explosé clairement ces dernières années, mais c'est peut-être l'après qui cloche. On a beaucoup de patients opérés et pas assez suivis derrière.
Alors oui, en France, la chirurgie bariatrique, c'est 50 000 personnes par an. Donc c'est pas négligeable. Et il est important de garder en tête que c'est réservé aux situations d'obésité sévère. C'est-à-dire, vous prenez l'index de masse corporelle, hein, qui est le rapport du poids en kilo sur la taille en mètres au carré. Donc cet index doit être supérieur à 35 chez des patients qui ont aussi d'autres comorbidités, d'autres pathologies. Donc ça rend service aux personnes. On voit des pertes de poids en moyenne. Bon, il y a différents types de chirurgie, mais avec le bypass de 30% à un an. Mais il est absolument clé d'être dans un programme de suivi, d'abord de préparation avant et ensuite de suivi après.
C'est quoi le risque sinon?
Le risque, c'est la reprise de poids. Le risque, c'est un diabète qui s'est amélioré et qui réapparaît après 2-3 ans.
Ça, vous le voyez, vous le constatez.
Et ça, oui, on le constate, bien sûr. Et surtout avec le suivi maintenant long terme des patients.
Alors ça reste une chirurgie en plus qui est lourde, qui est réversible, donc il y a des conséquences. Est-ce que du côté des médicaments, on peut espérer avoir quelques pistes sur justement quelque chose qui pourrait fonctionner dans l'obésité?
Effectivement, donc aujourd'hui, il y a un nouveau frémissement. Donc j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on a besoin de nouvelles molécules pharmacologiques. On a parlé de la complexité de l'obésité, donc il faut probablement des molécules avec différents modes d'action. Et donc, il y a des médicaments maintenant qui ont été utilisés d'abord dans le diabète. Donc c'est ce qu'on appelle les incrétines ou agonistes du glucagon-like peptide 1.
Bon, c'est un peu compliqué, mais des médicaments contre le diabète.
Fabriqués par l'intestin et qu'on peut donner aux patients et on s'aperçoit qu'il y a un effet sur la perte de poids.
Et ils arrivent sur le marché pour l'obésité dans quelques
mois,
je crois.
Absolument. Donc il y a une étude qui est déjà utilisée dans d'autres pays européens. On va pouvoir l'utiliser en France et je pense que c'est un outil intéressant.
Et là, on ne parle pas de dans 10 ans, c'est dans quelques mois, clairement.
Absolument.
Mais c'est des médicaments par injection, c'est ça? C'est pas si
dans le diabète, on le donne pour contrôler la glycémie. Ça a un effet aussi sur la prise alimentaire. Alors et c'est par injection.
Vous avez parlé du rôle du microbiote dans l'obésité, mais est-ce qu'on peut imaginer, justement, espérer jouer sur ce microbiote pour améliorer ou prévenir certaines obésités?
Alors, c'est tout l'enjeu de regarder, en fait, le microbiote. C'est de se dire comment, par des modifications alimentaires, on peut améliorer sa richesse, améliorer sa fonction. Et on a parlé beaucoup de dialogue entre les organes. Le microbiote, c'est un autre organe qui parle...
Deuxième cerveau.
Voilà, qui parle avec aussi le cerveau, aussi avec la graisse. Et là aussi, il y a une notion de différence d'une personne à l'autre. Et l'idée, c'est de savoir demain, en fonction d'un profil de microbiote donné, comment on peut donner une alimentation adaptée. Donc ça, on est encore à l'état de recherche, bien sûr.
Prévenir l'obésité, c'est aussi un enjeu très important. Vous avez parlé tout à l'heure de l'augmentation encore très préoccupante, notamment dans la population infantile, finalement. Comment on fait en France pour améliorer les choses? Est-ce qu'on fait suffisamment pour prévenir l'obésité?
Alors, l'obésité infantile, il y a différentes situations. Il y a des situations qui sont précoces, génétiques, graves, pour lequel d'ailleurs aujourd'hui on a des possibilités de traitement.
Donc des ça, enfants c'est un de autre... 4 ans par exemple qui
Absolument.
Souffrent d'obésité déjà.
C'est un progrès pour lequel on est capable d'identifier les causes génétiques et pour lequel aujourd'hui on a des nouveaux médicaments. Donc ça déjà c'est un progrès mais ça ne représente pas la majorité des enfants. Dans les formes non génétiques, le plus courant c'est que je pense que c'est important d'avoir affaire à un spécialiste et de consulter pour avoir des conseils sur la situation de l'enfant.
Et justement, en parlant des enfants, ça veut dire qu'un enfant qui serait obèse en étant enfant, parfois on peut se dire, oh, il va grandir, et c'est le discours qu'on entend, laissons-le
on
tranquille.
On adore les bébés dodus, et puis après
oui,
les enfants un peu grassouillés, effectivement.
Et puis on ne va pas le restreindre, mais c'est pas très grave, il va se rattraper quand il sera adulte. C'est une idée reçue, ça, d'ailleurs.
Alors, ça, encore une fois, ça dépend des trajectoires et des enfants et de la situation familiale et de savoir s'il y a une cause génétique ou pas. En tout cas, je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis d'un expert qui va orienter.
Même à 4 ans, il faut se poser la question. Ouais.
Oui, si un enfant qui nous, on voit des enfants qui ont pris du poids dès les premiers jours, semaines de vie, avec un poids qui démarre en flèche. Et là, il faut s'interroger quand même.
On va parler un tout petit peu pour terminer du contexte actuel. Évidemment, on l'a beaucoup lu, on l'a beaucoup entendu. L'obésité serait un facteur de risque d'avoir une forme grave de Covid. Comment on explique ça?
Alors oui, en fait, on s'est aperçu assez vite. Hein, d'ailleurs, les équipes françaises ont été assez pionnières. Les réanimateurs nous disaient, mais les patients en réanimation, ils sont quand même en surpoids, voire même obèses. Et effectivement, là, c'est bien démontré maintenant. Il y a même des études larges qui montrent que quand on a un surpoids, une obésité, on est deux fois plus à risque de faire une forme grave et en réanimation et à l'hôpital d'aller en réanimation, voire même d'être intubé. Donc effectivement, l'obésité, et en particulier l'obésité sévère, est à risque de forme grave de Covid-19.
Et c'est toujours avec cette histoire d'inflammation qu'on va avoir quand on est plus obèse et qui va
Ouais,
nous
c'est une
desservir.
Des pistes. Il y a pas mal de pistes. Hein. D'ailleurs, sur le rôle du tissu graisseux dans ses réserves de facteurs inflammatoires, de molécules de l'inflammation qui pourraient jouer un rôle.
On a déjà ça de façon latente et une infection en plus par-dessus,
c'est
ça flambe.
C'est une hypothèse, c'est oui.
Donc ces gens doivent se faire vacciner absolument, c'est important.
C'est important. Obésité, facteur de risque, les patients doivent bénéficier des vaccins.
Très bien. Merci beaucoup, professeur Clément, d'avoir été à nos côtés cet après-midi pour cet éclairage donc très complet sur l'obésité, une émission en collaboration avec la FRM, la Fondation pour la Recherche Médicale. Bonne continuation à vous et merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien avec des lunettes au secours de la dyslexie. Une solution innovante pour améliorer le quotidien des enfants concernés, pour les aider notamment pour la lecture. On vous dit tout dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, nous passons à notre séquence Les mots du quotidien. On va parler de dyslexie, plutôt d'une solution innovante, des lunettes intelligentes pour aider les enfants touchés par ce trouble. Et pour en parler, nous accueillons en ligne tout de suite Michaël Codochian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de la start-up Abeille qui a développé avec Atoll des lunettes intelligentes pour aider les enfants dyslexiques à lire plus facilement. Est-ce que très concrètement, vous pouvez nous expliquer comment elles fonctionnent, ces lunettes ?
Ben oui, bien sûr. Très concrètement, en fait, tout est parti d'une découverte scientifique à l'université de Rennes en 2017, qui ont découvert que finalement les dyslexiques avaient des yeux trop parfaits. Et en fait, plus précisément, ils ont des rétines trop symétriques. Vous savez, la rétine, c'est ce qui capte la lumière au fond de l'œil. Cette rétine trop symétrique, pénalise le cerveau dans sa capacité à traiter l'image. Et donc, il y a des images parasites, des images miroirs qui apparaissent, qui rendent la lecture difficile. Ce que font les lunettes, tout simplement, elles les désactivent, ces images parasites, et le texte apparaît d'un coup beaucoup plus clair. La lecture est facilitée.
Alors justement, on va écouter tout de suite le témoignage de Florian. Il a 13 ans, il est dyslexique et ses lunettes ont clairement changé sa vie.
J'avais du mal à m'exprimer, à lire. Tout ce qui était dans le domaine de la lecture, j'avais beaucoup de mal. Et donc, au bout d'un moment, à lire en ne comprenant pas mon texte que je devais lire, ça m'énervait, ça, on peut dire, me dégoûtait de lire. Alors, j'utilise les lunettes depuis novembre. Alors, ce qui a changé, c'est que déjà, je comprends mieux mon texte. Quand je parle, je suis fluide. Avant, je compensais beaucoup, donc j'étais déjà plus fatiguée. Les lunettes m'aident quand même un peu mieux. Ça me fait une aide extraordinaire, j'ai envie de dire, dans la lecture.
Alors c'est vrai que c'est incroyable ce genre de témoignage, ça fait plaisir d'entendre un enfant aller mieux. Et justement, ces lunettes, est-ce qu'on a besoin d'un temps d'adaptation ou est-ce qu'elles sont efficaces dès la première utilisation ?
Elles sont, l'effet est instantané, parce que de par son principe de fonctionnement, en désactivant ces images parasites, eh bien, le texte apparaît plus clair instantanément. L'autre effet, c'est que c'est universel. Alors que ça ne dépend pas de votre langue, ça ne dépend pas de votre âge, voilà, ça fonctionne.
Alors, il n'y a qu'à appuyer sur un petit bouton qui est sur le côté. Il faut qu'elles soient bien chargées, les lunettes, et c'est tout. Hein. D'un coup, paf, ça se...
C'est ça, c'est ça. Il y a un réglage initial. Il y a un réglage initial à faire à la première utilisation pour l'adapter à vos préférences. Une fois que ce réglage est fait, il est sauvegardé dans la lunette. Vous n'avez plus besoin d'un téléphone, puisque ça serait avec un téléphone. Et là, la lunette fonctionne de manière autonome.
Donc ces lunettes, elles sont utiles. Vous l'avez dit, il n'y a pas d'histoire d'âge, mais imaginons, je ne sais pas, un dyslexique adulte, qui a 20 ans, 25 ans, qui combat un peu ce trouble et qui fait avec depuis des années. Pour lui, ça va être aussi rapide? L'efficacité est la même, vraiment?
Oui, absolument. En fait, les... Tout simplement, le premier modèle qu'on a sorti, c'est pour les enfants, parce que, moi je le dis comme ça, un peu, c'est un slogan, mais c'est, chez les enfants, la dyslexie, c'est la double peine. C'est-à-dire que lorsque vous êtes adulte, vous avez eu le temps d'avoir de la rééducation, vous avez mis en place des stratégies de lecture alternatives qui font que vous compensez, et les enfants, eux, n'ont pas eu ce temps-là. Et en même temps, eh bien, c'est le moment de leur vie où ils sont le plus sollicités. Lorsque vous êtes à l'école, vous devez lire du matin au soir pour apprendre vos leçons, pour faire des devoirs. Et donc, il y a d'un côté un impératif de lecture et de l'autre côté, vous n'avez pas encore les outils pour gérer. Et donc, c'est la raison pour laquelle le premier modèle qu'on a sorti, c'est pour les enfants. D'accord. Mais évidemment, les adultes aussi, c'est efficace. Et il y a un modèle adulte qui arrive dans 2 mois.
Et justement, comment est-ce qu'on fait pour se procurer ces lunettes et pour quel coût ?
Alors, avant de se les procurer, on peut surtout les essayer. Ça, c'est chez tous les opticiens Atoll. Il suffit de prendre rendez-vous, l'essai est gratuit. Et comme ça, vous pouvez voir si elles vous conviennent. Si elles vous conviennent, eh bien, vous pouvez vous les procurer chez n'importe quel opticien Atoll pour le prix de 399 €, toutes taxes comprises. Je précise que c'est fabriqué en France et que la mise à la vue est possible. C'est-à-dire que si vous êtes déjà porteur de myope ou hypermétrope, eh bien, la mise à la vue est possible également.
Très bien. Merci beaucoup, Michael Kodoschian, d'avoir répondu à nos questions. Et encore bravo donc, pour cette innovation qui peut changer la vie des dyslexiques.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez pour la chronique sexo, bien sûr, de Catherine Blanc. C'est dans un instant. À tout de suite.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, avec grand plaisir, depuis 15h. Et on continue cette émission avec Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question envoyée par mail par Sylvain. Je vous la lis. Je me rends compte qu'à chaque fois que j'essaye de discuter sérieusement avec mon copain, il fait des blagues et tente de me faire rire. Bref, on n'arrive jamais à discuter de notre couple et de ce qui ne va pas. Pourquoi réagit-il comme ça ? Catherine, ça paraît étrange, c'est vrai, effectivement. Pourquoi tout le temps il se marre s'il veut aborder des sujets importants ? C'est fréquent, ça, d'avoir des difficultés à communiquer et que l'autre prenne ça sur le ton de la plaisanterie ?
Oui, c'est extrêmement fréquent. En fait, l'humour est un bon moyen parfois de communiquer pour communiquer des choses graves. Par le biais de l'humour, on peut faire passer des informations, mais c'est aussi l'occasion de faire des tas de fuites de la communication et de dévaloriser l'importance que représente pour l'autre le fait d'échanger sur des sujets précis. C'est pas vrai que dans ce couple, ça l'est moult fois. D'autres préféreront le silence, ne répondront pas, hocheront de la tête et puis fuiront la conversation. Là, il y a une sorte de « oh oui, on écoute, on en parle, etc. »
La fuite par la légèreté et le rire.
Voilà.
Quoi,
ouais. Et du coup, on met de la légèreté là où il n'y a pas de légèreté, là où en face, il y a de l'inquiétude, il y a un besoin de s'arrêter avec tout ce que ça représente de difficulté de soulever des problématiques que l'on peut rencontrer. Et effectivement, sa position, c'est de rendre tout anecdotique, alors que ça ne l'est pas pour son partenaire.
Alors, même s'il peut y avoir de la fuite, ça peut être aussi l'expression d'un malaise. On peut rire quand parfois on ne sait pas trop quoi dire.
C'est vrai que quand on est mal à l'aise, parfois on rit.
Oui. Hein. Donc, ce n'est pas forcément qu'on ne veut pas en parler, c'est qu'on peut-être qu'il y a un véritable problème.
D'où la fuite, en fait. C'est-à-dire qu'on va fuir parce qu'on n'est pas capable de se confronter, on n'est pas capable d'élaborer sur le sujet, on n'est pas capable de se remettre en question ou d'être remis en question éventuellement. Et du coup, on fait un petit flip-flap parce qu'on sait que l'humour entre nous fonctionne, et ce qui permet de reprendre le pouvoir, puisque je fais rire l'autre, en le faisant rire, je reprends du pouvoir. Alors que là, j'ai l'impression que je vais dans une conversation qui va me faire perdre un peu ce pouvoir parce que je vais être remis en question, ou l'autre va me dire que peut-être la relation n'est pas aussi... aussi impactante que je pouvais l'imaginer ou l'espérer. Donc oui, on peut être mal à l'aise d'être remis, et notamment sur le sujet bien sûr du couple, mais même sur la sexualité. Les gens ont du mal, les couples ont du mal à parler de leur sexualité parce que c'est rentré dans des émotions et pas simplement dans la pratique de la sexualité elle-même. Et dire, tu sais, ça me plaît pas, ou ça j'aime pas, ou ça me fait souffrir, ou je trouve bizarre que tu fasses comme ça. Ce sont des conversations très 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 difficiles à avoir.
On peut en parler. Alors, pour être à l'aise dans la sexualité et mal à l'aise d'en parler. Pourtant,
Exactement.
Devrait nous rendre plus mal à l'aise que d'en parler.
Exactement. Et bien, en fait, c'est souvent beaucoup plus intime, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est souvent beaucoup plus intime de parler de ses émotions que, d'une certaine manière, dévoiler nos sexes et agir de nos sexes. Et c'est sans doute là que nous sommes le plus en difficulté, et souvent notre sexualité physique pêche par difficulté d'exprimer ou d'être libre de nos émotions et de éventuellement bouger légèrement le curseur pour remettre les choses plus en adéquation avec ce que l'on est ou ce que l'on devient. Parce que, évidemment, tout cela évolue au fil des ans. Et donc, dans notre relation, il faut la remettre à chaque fois un petit peu à l'ordre du jour. Donc, s'exprimer un tant soit peu.
Et là, Catherine, pour Sylvain, ça a l'air quand même d'être très problématique. Et il ne nous dit pas quel problème il a hein, concrètement avec son copain, mais il y en a. Et à chaque fois, ça part en rire, en fou rire. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant ? Stop à l'humour ? Il lui dit, on discute, stop.
Je crois que sa question était de savoir pourquoi il faisait ça. Donc, si on identifie que c'est soit par difficulté d'aborder le sujet, d'être remis en question, ou malaise, ou difficulté d'élaborer, ben, il faut commencer peut-être en disant « Je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour toi, je le comprends, mais je voudrais que tu puisses au moins m'entendre à défaut de me répondre. Au moins, écoute-moi et n'en fais pas une blagounette. On aura tout le temps de faire des blagounettes avant, après. Mais pour l'heure, j'ai besoin d'être entendue, sinon ça devient finalement une colère sourde en moi et une frustration trop importante. Donc, 2 secondes, arrête de rire. C'est un peu un rire nerveux, comme le suggérait tout à l'heure Jimmy. On le retrouve aussi dans la sexualité. Vous avez des hommes ou des femmes, souvent les femmes d'ailleurs, qui, dès qu'on les touche, se mettent à glousser et rire, alors qu'en fait, elles ne savent pas très bien quoi faire.
Je ris,
vous
avez illustré parfaitement le propos.
Je suis très mal à l'aise, en fait, bien sûr.
Voilà. Et donc, souvent, c'est une façon de...
J'illustrais Jimmy, c'est ça aussi mon rôle.
Là, vous ne l'avez pas vu dire. Alors, les auditeurs ne le savent pas, mais vous m'avez regardé.
Je suis absolument pas mal à l'aise.
Vous vous êtes rendu compte de votre rire, mais regardez, genre, ah oui, c'est ce rire-là.
Moi, je ne suis pas mal à l'aise, Catherine, mais en tout cas, on dit stop blague, écoute-moi.
Voilà, de temps en temps, les blagues sont bonnes à condition que ça ne fasse pas taire et ça ne muselle pas les relations.
Très bien, je me muselle, j'arrête de rigoler. Merci beaucoup Catherine, on rira peut-être plus demain. Merci pour tous les conseils, à demain.